Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à Kiosque Magazine. Vous êtes en compagnie de Dominique Meillet et de Geneviève Patterson. Bonjour Geneviève.
Bonjour Dominique.
Geneviève va maintenant faire partie de notre équipe et co-animer les kiosques du mercredi avec moi. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Bon, aujourd'hui, mercredi 22 octobre 2014, moi je vais vous parler de mes 25 ans avec Elle Québec. Faire des portraits de Bryan Adams et d'Azimit, qui est une styliste. Je vous présenterai 12 tendances beauté qui ont marqué ces 25 dernières années. Et enfin, le quotidien des mamans qui ont choisi de rester à la maison. Voilà. Et toi, Geneviève ?
Oui, de mon côté, je vous parle des méthodes naturelles pour vaincre le sommeil et de Véro à Orlando. Oui, Véronique Loutier à Orlando, c'est magique.
Bon, eh bien, écoutez, on revient dans quelques instants. Mes 25 ans avec elle, c'est un texte de Myriam Gagnon dans le Elle Québec d'octobre 2014. C'est le Elle Québec qui fête toujours ses 25 ans. Au cours des ans, notre journaliste en a fait des folies pour l'amour de son magazine chéri. Ici, elle revient pour nous sur ses reportages, ses entrevues et ses délires, plus ou moins contrôlés. Quand j'ai décroché mon premier contrat pour Elle Québec, qui venait tout juste de naître en 1989, pas question que je pavoise devant les copines. On était au plus fort du militantisme féministe et, pour mes amies, toutes mobilisées pour la cause, rédiger une chronique de déco dans un magazine de mode et de beauté était le comble de la futilité. Je crois qu'elles auraient à peine été plus choquées si je leur avais avoué que je n'étais pas capable de blairer Simone de Beauvoir. Ce qui est d'ailleurs vrai. Ne leur en déplaise, être embauchée par un magazine de renommée internationale me remplissait de satisfaction. D'ailleurs, je soupçonnais mes amies militantes de lire le Elle en douce, histoire de s'offrir une petite parenthèse en marge de leur vécu de battante, comme on disait à l'époque. Et j'ai vite découvert qu'être journaliste pour une publication féminine, contrairement à ce qu'elle et moi auraient pu croire, ne se limitait pas à s'habiller chic pour aller de vernissage en vernissage. J'en ai eu la preuve dès 1990 quand il a fallu élaborer un reportage déco intitulé « Trois Noëls extravagants ». Pour rendre les décors concrets de toute pièce plus habités, la rédactrice en chef avait suggéré que la séance photo ait lieu non pas dans un studio, mais chez moi. Dans mon minuscule appartement, ça a été épique. Comme on prépare nos numéros des mois à l'avance, le shooting s'est déroulé au début de septembre, par une journée caniculaire et les fenêtres fermées pour éviter qu'un coup de vent détruise le tulle délicat que j'avais drapé le décor Noël blanc. Dernière étape avant la photo, j'ai actionné le canon à fumée qui devait transformer le setup en cocon vaporeux. Et là, catastrophe. Au lieu de la brume aérienne promise par le gars du studio spécialité, l'engin surchauffé s'est mis à propulser un panache de centrale nucléaire. Sur le point de suffoquer à cause des fenêtres fermées, je me suis réfugiée sur le balcon avec le photographe, libérant du même coup d'énormes volutes de fumée. Panique chez les voisins qui appellent le 911. Alerte, il y a le feu chez Myriam. Une fois rassuré, l'un d'eux a lancé « Si c'est ça ton idée d'un réveillon, ne compte pas sur nous pour le 24 décembre. » 3 ans plus tard, j'écrivais sur une foule de sujets différents. On m'a alors confié un reportage chez les femmes flics, ce qui allait me permettre de clouer le bec aux confrères narquois de l'actualité. T'aurais pas envie de faire du vrai journalisme des fois ? Pendant 3 semaines, j'ai suivi une policière à la trace en assistant à toutes ses tâches, entraînement des recrues à l'Institut de Nicolet, réponse aux appels d'urgence, garde de nuit. Au temps de ma jeunesse plutôt agitée, j'avais eu affaire aux forces de l'ordre. Voilà que j'étais de l'autre côté des barricades. Et que ma vision des choses basculait. Aurais-je su garder mon calme comme les policières que j'accompagnais si un jeune survolté m'avait craché au visage ? Si une femme s'était jetée sur moi, toute griffe dehors, pour défendre son batteur de mari? Je me souviens des insultes qu'a déversées sur les agentes un automobiliste pris en flagrant délit d'excès de vitesse. foi d'ex-manifestante contre la brutalité policière, à la place de la constable Grenon, j'aurais donné une volée à ce gros ours mal léché. Pour éviter de faire des envieuses, je ne vais pas m'étendre sur les délicieuses à côté liées au métier. Un tête-à-tête prolongé avec le roi du puits, du temps des filles de Caleb, par exemple. À vrai dire, c'est le psychiatre et sexologue italien Willy Pasini qui m'a procuré en 2006 le plus jouissif des bénéfices marginaux sous forme d'une technique imparable pour captiver les hommes. De passage au Québec après la sortie de son best-seller Nourriture et amour, le professore m'avait appris que le comportement à table d'une personne, de même que le contenu de son assiette, trahissait ses habitudes érotiques. L'occasion d'utiliser mon nouveau savoir s'est présentée quelques jours plus tard, à une fête où je connaissais pas grand monde. Je m'y suis embêtée comme un rat mort jusqu'au moment du buffet. Dans la file, un mec trop mignon. On a échangé quelques mots et là, à la fin, j'ai glissé. D'après votre assiette, je dirais que vous préférez la position du missionnaire. Il avait pris le plat mijoté. Le mot a dû se répandre, car j'ai passé la soirée entourée d'hommes venus me montrer leur assiette pour tester mes dons de voyance. Au fil des ans, j'ai interviewé des filles qui refusent de se raser les aisselles, des artisans de la haute couture, des top modèles et le président de l'association des trappeurs cris. J'ai décortiqué des phénomènes de société, traqué des lieux branchés de Lisbonne à Prague, rencontré des gens de tout acabit et répondu à des questions existentielles. Où trouver des beaux gars à Montréal? Comment enlever une tache de gras sur un pantalon en cuir? Bref, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, parce que d'un jour à l'autre, rien n'est jamais pareil. Par-dessus tout, j'ai compris que la vie se compose de 1000 facettes, dont aucune n'est dérisoire. C'est grâce à elle que je suis sortie de mes sentiers battus d'intello ascendant snob, me délestant en cours de route de quelques solides préjugés. Et pour ça, je ne dirai jamais assez merci, comme je ne dirai jamais non à une autre folle aventure que les rédactrices de Elle me proposeront. Peut-être demain.
En cette saison de pré-hibernation, des méthodes naturelles pour vaincre le sommeil, c'est dans le magazine Moi et compagnie d'octobre 2014 par Lucie Turgeon. Besoin d'aide pour s'abandonner dans les bras de Morphée? Heureusement, il existe des options naturelles pour renouer avec un sommeil réparateur. On vous présente trois produits parmi les plus efficaces offerts sur le marché. La mélatonine. Cette hormone, qui intervient dans la régularisation du sommeil, s'avère utile en cas d'insomnie. Naturellement sécrétée par la glande pinéale pendant la nuit, cette substance sert à synchroniser les rythmes circadiens. Autrement dit, elle informe le cerveau qu'il fait nuit et que c'est le temps de dormir. Plusieurs études cliniques ont démontré que la prise de mélatonine synthétique avant le coucher pouvait soulager certains cas d'insomnie, notamment en facilitant l'endormissement et en améliorant la qualité du sommeil. Bon à savoir, la mélatonine est efficace pour les gens dont l'horloge biologique est désynchronisée, notamment parce qu'ils occupent un emploi de soir ou de nuit ou qu'ils ont des horaires rotatifs. Elle n'est pas conseillée aux femmes enceintes ou qui allaitent. Le houblon. Cette plante a un effet sédatif reconnu. Plusieurs études cliniques ont démontré l'efficacité du houblon en association à la valériane pour traiter l'insomnie. La combinaison de ces deux plantes diminuerait le temps d'endormissement, améliorerait la qualité du sommeil et réduirait la fréquence des réveils nocturnes. Certaines études affirment que la combinaison houblon-valériane est aussi efficace pour améliorer le sommeil que le sont les somnifères. La prise de houblon occasionne moins de diminution de la vigilance et d'effets de lendemain de veille au lever que les somnifères. Il n'est pas recommandé aux femmes enceintes ou qui allaitent. Finalement, la valériane, Les propriétés relaxantes et sédatives de cette plante sont connues depuis belle lurette. Elle agirait comme les benzodiazépines, des médicaments que l'on prescrit pour traiter l'insomnie, en ralentissant l'activité entre certains neurotransmetteurs. Plusieurs études ont confirmé son efficacité comme sédatif pour traiter l'insomnie passagère. Il faut parfois compter de 2 à 4 semaines avant de ressentir pleinement les bienfaits de la valériane, surtout en cas d'insomnie chronique. Contrairement aux somnifères, la prise de cette plante ne procure pas de sensation de lendemain de veille au lever. Son innocuité n'est pas établie hors de tout doute pour les femmes enceintes ou qui allaitent. La valériane est souvent associée à d'autres plantes ayant des propriétés calmantes, comme la passiflore, la mélisse et le houblon. Est-ce qu'il y a un risque que je développe une accoutumance à ces produits naturels? Non. Contrairement aux somnifères, les produits naturels ne causent pas de dépendance. Ils constituent donc une option intéressante pour les personnes souffrant d'insomnie. Cela dit, en raison de leur effet sédatif, des risques de somnolence et de perte de vigilance, il est préférable d'éviter de conduire ou de manipuler des outils dangereux dans les 5 heures suivant la prise de ces produits naturels. Ceux-ci peuvent aussi interagir avec des médicaments ou augmenter les effets sédatifs d'autres produits. Mieux vaut donc s'informer auprès d'un pharmacien avant d'en prendre. Et 5 trucs naturels pour favoriser le sommeil. Pratiquer une technique de relaxation, yoga, méditation, etc., 1 heure avant d'aller au lit. Consommer un goûter léger avant le coucher, comme un verre de lait chaud avec du miel. Prendre un bon bain chaud de 15 à 20 minutes avant d'aller sous les draps. Appliquer 5 gouttes d'huile essentielle de lavande sur les avant-bras et le plexus solaire, c'est-à-dire entre le sternum et le nombril, avant le coucher. Et dormir dans une pièce sombre et tranquille.
Mais c'est super, parce que c'est que des produits naturels et voilà, comme ça c'est mieux que d'avaler un petit cachet. Mm-hmm. Et puis c'est des choses agréables à faire.
On parle de toi à la radio, sur le journal, y a ta faute. Je me sens tout petit. Je voudrais grimper sur tes genoux, sentir ta barbe piquer ma joue, te dire bonne nuit. Regardez bouger ta pomme d'Adam, ça me faisait rire. Le temps qui passe est un méchant, papa, le temps est un méchant. Savoir enfin à quoi tu penses.
tu souris. Le temps qui passe est un méchant. Papa, le temps est un méchant. Tu peux dormir. Tu peux dormir. Tu peux dormir. Tu peux dormir.
C'était « Tu peux dormir » de Michel Rivard. Brian Adams, photographe. C'est dans le Elle Québec et c'est un texte par Yves Scheffner. Brian Adams n'est pas qu'une super méga star du rock. C'est aussi un photographe acclamé dans le monde entier qui signe ce mois-ci la couverture du Elle Québec. Rencontre avec un artiste qui a bien plus qu'une corde à son arc. Mick Jagger, Amy Winehouse, Kate Moss, Lana Del Rey, Lindsay Lohan, Vanessa Paradis, Billy Idol et même la Reine d'Angleterre. La liste des stars qui ont posé pour Brian Adams est assez impressionnante, merci. Loin d'être un simple passe-temps, la photographie est devenue une seconde carrière pour le chanteur canadien depuis qu'il s'est mis à croquer ses collègues et amis musiciens pendant les tournées, il y a une quinzaine d'années. À 54 ans, l'auteur de « Summer of 69 » et de « Everything I do it for you » continue de donner une centaine de concerts par année et de sortir des nouvelles pièces régulièrement. Le reste du temps, il le passe devant son objectif, que ce soit à Londres, où il réside, à Paris, à New York ou à Los Angeles. Très demandé, il signe fréquemment des photos pour Vogue, Harper's Bazaar, ainsi que pour Zoo Magazine, qu'il a cofondé. Ses portraits, eux, font l'objet d'expositions organisées aux quatre coins du globe. De février à juin 2015, ce sera à notre tour de les voir au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Le jour de notre shooting, il est le premier arrivé au studio new-yorkais où nous lui avons donné rendez-vous. Filiforme, vêtu d'un jean et d'un t-shirt, les cheveux courts méticuleusement peignés sur le côté, il a l'allure et l'énergie d'une rockstar qui fréquente plus les gyms que les bars. Un verre de lait d'amande à la main, il est végétalien de longue date, il se met immédiatement au boulot et rend tout le monde à l'aise. Aujourd'hui, il est à New York pour la couverture de Elle Québec, mais il doit ensuite s'envoler pour donner des concerts à Calgary et à Québec. La province de Québec est celle où il préfère jouer au Canada, dit-il. Avant d'aller à Vancouver pour visiter sa famille en compagnie de ses deux petites filles, j'essaye de planifier mes séances photos en fonction des dates de mes concerts, explique-t-il. Si le chanteur est connu pour sa voix éraillée, le photographe, lui, s'est fait un nom grâce à ses portraits singuliers. J'ai toujours pensé que nous sommes tous beaux, qu'on peut trouver du charme à chaque personne. Son portfolio compte évidemment un nombre renversant de mégastars et de top modèles, mais on y trouve aussi de troublantes photos de militaires britanniques blessés, voire mutilés en Afghanistan et en Irak. Les clichés réunis dans l'ouvrage « Wounded, The Legacy of War » rendent un brillant hommage à ces soldats et constituent une critique cinglante de l'idéologie guerrière qui a donné l'actualité de la dernière décennie. Ça me semblait la meilleure façon de documenter cette période particulière de notre histoire, précise le chanteur, dont le père a servi dans les forces armées britanniques et canadiennes. Quel plaisir la star planétaire tire-t-elle de la photo ? Une des raisons pour lesquelles je fais des portraits, c'est que ça me permet d'accumuler les expériences enrichissantes. Et n'est-ce pas là le but de l'existence ? Quant aux images qu'il a signées dans nos pages, Bryan Adams attribue d'emblée la qualité du résultat final au professionnalisme des 5 mannequins québécois prêts à se mettre à nu pour les 25 ans du Hell Québec. « Il aurait fallu être un idiot de première pour bousiller une séance comme celle-là », dit-il en décochant son célèbre sourire. Et je vais également vous parler d'une styliste qui s'appelle Azami et qui nous présente, qui nous explique en quoi consiste son travail. Pour devenir styliste de mode, il ne suffit pas d'adorer les magazines. Il faut aussi pas mal d'huile de coude. Parole d'une styliste chevronnée et d'une figure emblématique de la mode d'ici. C'est par Marion Cressman-Lombroseau et c'est toujours dans le Elle Québec d'octobre 2014. J'ai su que je serais styliste le jour où j'ai appris que ce boulot existait. Quoi, il y avait des gens payés pour trouver des vêtements présentés dans les magazines ? On signe où pour ça ? J'avais 23 ou 24 ans à ce moment-là et je cherchais un travail qui me permettrait d'allier ma passion pour les vêtements et ma créativité. J'avais étudié en design de mode, mais au fil des stages, j'avais compris que je n'avais pas l'étoffe d'une designer. L'idée de créer pour une seule marque et de me confiner à une seule image m'angoissait profondément. En revanche, être styliste m'ouvrait un monde de possibilités. À chaque séance photo, il fallait repartir de zéro, se renouveler, raconter une nouvelle histoire avec d'autres vêtements et accessoires. Une perspective grisante. Au moment de me lancer, je ne connaissais rien à ce domaine. J'ai donc frappé à la porte du magazine qui m'inspirait le plus, Elle Québec. J'ai appelé et rappelé l'adjointe du rédacteur en chef mode jusqu'à ce qu'elle accepte de me rencontrer. J'ai eu de la chance. Le jour de mon entrevue, une des stylistes qui travaillait au magazine a annoncé qu'elle était enceinte et qu'il lui fallait absolument une assistante pour l'aider à transporter les housses de vêtements. J'ai commencé 2 jours plus tard. C'est en devenant assistante que j'ai tout appris. Il fallait emprunter des échantillons dans les salles de montre et les rapporter intacts, commander des pièces provenant de New York, gérer les stocks sans rien perdre ni rien briser, arpenter toute la ville pour trouver les objets qui cadraient avec la vision du directeur artistique. Après m'être bâti une clientèle suffisante, j'ai travaillé à mon compte comme styliste. J'ai vite compris que faire de la recherche pour l'édito d'un magazine et effectuer une pour une campagne de pub, c'était 2 choses entièrement différentes. Pour les magazines, on fabrique du rêve, on choisit les pièces des créateurs les plus photogéniques afin de traduire une tendance ou une idée. Pour les pubs, on se sert de vêtements quotidiens, souvent banals, contente de sublimer. Dans les 2 cas, on crée des images qui inspirent, qui donnent des idées. Ça fait 16 ans que j'exerce ce métier. Chaque jour, mon travail est une vraie course contre la montre. Je dois trouver des solutions à toutes sortes de problèmes, a priori insolubles. Il n'est pas rare qu'un client m'appelle la veille d'une séance photo, alors que tout est fixé parce qu'il veut absolument une paire de gants sertis de pierres précieuses. Surtout, pas de panique. Ce qui compte, c'est de respirer un bon coup, de se retrousser les manches, puis de relever le défi. Car quoi qu'il arrive, le lendemain, j'aurai les gants pour le shooting.
Parlons mode maintenant. La vie en léopard, c'est dans le Véro magazine d'octobre 2014. Cet automne, on adopte l'imprimé tacheté qui nous fera rugir de plaisir. Mais attention, il faut savoir l'apprivoiser. Par Suzanne Goudreau. Pourquoi on l'aime? Depuis quelques saisons déjà, le léopard s'impose comme un classique de la mode. Exotique, chic et un brin sexy, l'imprimé animalier nous permet d'affronter la jungle urbaine avec style. Comment le porter? Les frileuses l'adopteront par petites touches en version minimaliste. Chaussures, ceintures, sacs, écharpes aux bijoux apporteront une note mordante aux tenues basiques ou sages. Les fashionistas opteront pour une seule pièce forte, harmonisée à des coloris unis et sobres. Seuls les initiés oseront agencer le motif fauve à des couleurs plus punchées ou à d'autres motifs. Les fashion faux pas à éviter, le look intégral des pieds à la tête ou le léopard en version colorée. Grrr. Côté beauté, on peut miser sur un look naturel et sobre avec des teintes neutres et des textures mates. Pour une soirée glam, on ose le regard félin avec un trait d'eyeliner façon œil de chat, très tendance cet automne. Et puis, je vous parle aussi de jeans avec Guylaine Gay. C'est dans Le Moi et compagnie d'octobre 2014. Non, c'est toujours dans le Véro magazine. Oui, Guylaine Gay qui a récemment écrit un livre aussi sur ses enfants. Mais là, elle parle du jean de sa vie, le jean de ma vie. Toujours dans le Véro magazine d'octobre 2014. L'année de mes 18 ans a été mémorable. À quelques mois d'intervalle, pour la première fois, j'embrassais un garçon et j'essayais ma toute première paire de jeans. À 18 ans. Oui, je sais, jolie, mais pas vite, vite, la Guilou. Disons-le, en 1988, la mode pour les dodus était plutôt limitée et mémée. Je vous montrerai peut-être le jour de la photo. En fait, un jour, la photo de mon bal est finissant. J'ai l'air d'avoir 67 ans au lieu de 17. C'est finalement au rayon des hommes d'un magasin à grande surface de l'époque que j'essaie mon premier jean. Un pantalon lourd, dépourvu de toute élasticité et absolument inconfortable. Aujourd'hui, à 44 ans, je suis en amour avec un homme formidable et quelques paires de jeans parfaite pour moi. Je vous souhaite le même bonheur.
Alors, 12 tendances beauté qui nous ont marquées, c'est toujours dans le Elle Québec d'octobre 2014. C'est un texte qui a été écrit par plusieurs personnes. Mélanie Frappa, Angélique Martin, Sylvie Michelon, Sophie Ortega, Aline Pinksteren et Chantal Tellier. Le domaine de la beauté a drôlement évolué en un quart de siècle. Innovation technologique, chirurgie esthétique, virage bio, engouement pour les blogueuses, petit tour d'horizon. Du neuf sous le soleil, les années 1980 mettent le bronzage, symbole ultime de la réussite sociale à l'avant-plan. Sur les plages, ça sent le monoï, produit culte des amateurs de bronzette. En ville, les salons de bronzage sont extrêmement populaires. Dans les années 1990, les dermatos sonnent l'alarme après avoir fait le lien entre l'exposition prolongée au soleil et le cancer. Le sauveur se présente alors sous la forme de l'auto-bronzant. Pas toujours au point, les épidermes orangés, voire striés ou zébrés, ça vous rappelle quelque chose? Heureusement, les formules se sont drôlement améliorées depuis. 2004, l'Odyssée de la beauté. L'année 2004 a marqué le début d'une nouvelle ère au Canada, l'arrivée de Sephora. D'ailleurs, je crois que Sephora est arrivée il n'y a pas très très longtemps à Montréal, il y a une petite année. Mais ça y est, c'est là. Enfin, il faut dire que cette chaîne de distribution bien implantée en Europe et aux États-Unis a révolutionné le monde de la beauté grâce à son service en ligne, permettant à tous les fans de cosmétiques de se procurer le dernier vernis tendance ou un parfum de niche sans avoir à parcourir des kilomètres ou à traverser l'océan. Du nude encore et encore. Cette mode est née en 1990 sous la houppette du maquilleur Dick Page, qui rêvait de visages plus naturels. Il faut dire qu'avec Kate Moss, il avait un bon canevas. Il délaisse donc le fond de teint et s'en tient à un peu de vaseline sur les paupières et à une légère touche de rouge à lèvres. Le nude devient tendance et son succès ne s'est pas démenti depuis, même s'il est un peu plus compliqué à réaliser sur le commun des mortels, c'est-à-dire nous. Du nouveau en cosmétologie, les marques émergentes se font une niche. En voici quelques-unes promises à un bel avenir chez nous. Il y a le Bite Beauty consacré au maquillage de la bouche. Cette entreprise torontoise s'est donnée comme mission d'offrir des cosmétiques efficaces formulés à partir d'ingrédients comestibles, car qui ne lèche jamais ses lèvres. Les laboratoires Philorga, cette société française spécialisée en médecine esthétique et en produits injectables depuis plus de 30 ans, vient de lancer sur le marché québécois une gamme de nettoyants, de masques et de soins anti-âge très concentrés en principes actifs. Il y a aussi Uriage. À côté des produits dermo-cosmétiques de Vichy, d'Aven et de La Roche-Posay, trônent désormais les soins Uriage, élaborés avec une eau thermale puisée près de Grenoble, qui favorise l'hydratation, l'apaisement et la protection de la peau. Jurilic, cette ligne australienne de soins pour la peau, qui a été lancée en 1985, s'appuie sur des recherches scientifiques poussées tout en exploitant le potentiel de diverses plantes issues de la culture biologique et biodynamique. Et enfin Nest, les Slatkin, un couple de Britanniques, se sont d'abord spécialisés dans la concoction de parfums d'ambiance pour des grands couturiers. Puis, la maison s'est fait un nid. Elle crée aujourd'hui des fragrances et des bougies aussi agréables à humer qu'à reluquer. Ça fait mal. Ces 25 dernières années, nos hommes ont connu toutes les tendances, métrosexuels, geeks, hipsters, normcom, etc. Ils ne se rasent plus de près comme avant. Ils portent des fragrances recherchées, se tartinent même de crème anti-rides. Mais ils rêvent encore la nuit du produit qui fait tout. Beauté métissée. Faut-il encore être caucasienne, blonde et ado pour envisager une carrière de top modèle? Pas forcément. Parce qu'à l'heure de la mondialisation, de nouvelles tendances se dessinent. Diversité oblige. La popularité de l'actrice et réalisatrice mexicano-kenyane Lupita Nyong'o changera-t-elle la donne? Le boom du bio. Les produits comme ceux de Velleda, du Dr Oshka et de Lavera, qui affichaient depuis longtemps leur credo écolo, était cantonné aux boutiques spécialisées jusque dans les années 2000. Mais à l'époque, les études sur les cosmétiques chimiques sont tellement alarmistes qu'on ne sait plus vers quel petit pot se tourner, ce qui suscite un engouement sans précédent pour ces marques discrètes. Dans la foulée, des labels de qualité sont mis sur pied. Et pour répondre à la demande du public, les grands groupes de cosmétiques prennent eux aussi le virage vert, rachetant des marques établies ou lançant des gammes bio. Une tendance qui n'est pas près de faiblir quand on sait à quel point les allergies et les intolérances se multiplient. Nul doute que le bio a de beaux jours devant lui. Alerte aux parabènes. Maintenant, on sait que nos cosmétiques peuvent contenir des perturbateurs endocriniens et nous exposer à une centaine de produits chimiques par jour, normalement sans danger à si faible dose. Un constat qui ne nous empêche pas d'utiliser nos soins préférés, mais qui nous incite à mieux lire la liste des ingrédients. Et enfin, de l'Asie jusque chez nous. Depuis quelques années, les rituels de beauté des Japonaises, des Chinoises et des Coréennes se sont enrichis de soins inédits qui ont vite fait fureur aux quatre coins du monde. Le top de ces 5 innovations cosmétiques, les crèmes bébés, d'un seul geste, ces baumes beauté, hydratent, protègent, matifient, unifient et ravivent le minois. Les crèmes CC, plus couvrantes que leurs cousines les bébés, ces crèmes correctrices ciblent surtout les défauts pigmentaires, taches, cernes et comédons. Les soins éclaircissants. Comme l'idéal de beauté des orientales suppose un teint de gaïcha, elle raffole des soins qui mettent des taches pigmentaires en sourdine. Lotion préparatrice. Ces lotions humectent l'épiderme en optimisant l'effet des sérums et d'autres soins ciblés. Et enfin, les masques faciaux en tissu. Ils épousent les contours du visage et l'imprègnent des ingrédients concentrés dont ils sont imbibés. Résultat, un teint lumineux.
On parlait de teint lumineux, illumination, le rêve. Véro à Orlando, c'est magique. Un texte de Judith Lucier dans le Véro magazine d'octobre 2014. Automne 2014, en fait. Personne ne peut mieux vous guider à Disney World que Véro elle-même. Elle ne compte plus le nombre de fois où elle y est allée, seule ou en famille, pour le boulot ou pour le plaisir. Découvrez ses coups de cœur et ses trucs d'experte pour passer un séjour inoubliable au pays de Mickey. Sous un soleil éclatant, un membre de l'équipe de Disney World s'avance l'air de rien sur une artère achalandée. Sans attendre d'être remarqué par les passants, il trempe son balai dans un porte-poussière rempli d'eau, trace d'une main de maître un Mickey sur le bitume et crée instantanément l'enchantement. Personne au pays, ou même les invités les plus triviales, se transforment en magie. Disney World. Je ne suis pas certaine que Véro ait eu connaissance de ce moment de grâce de notre balayeur. Elle allait deux pieds dans l'un de ces défilés spontanés, avec des chars et des danseurs hyperactifs qui vous rappellent que vous êtes à Orlando, en Floride, et que c'est complètement fou. À voir la blonde animatrice danser avec bonheur, on imagine qu'elle aimerait faire partie du défilé, même si elle l'a vu au moins 10 fois. Disney, tatoué sur le cœur. Nous écoutons Véro nous raconter ses expériences de voyage au pays de Disney. Elle est venue si souvent qu'elle connaît le domaine de 111 km carrés, soit 2 fois l'île de Manhattan, comme le fond de sa poche. Les 4 parcs thématiques, les 2 parcs aquatiques et les boutiques du centre-ville. Elle sait qu'aucun des magasins de bonbons du site ne vend de gomme à mâcher pour éviter que les visiteurs en aient sous leurs souliers. Elle sait qu'il existe une suite secrète au château de Cendrillon. Elle l'a déjà visitée. Elle connaît les passages souterrains qui permettent aux acteurs d'aller rapidement d'un parc à un autre. Elle passerait sûrement haut la main le test d'entrée des employés et pourrait même en apprendre aux guides les plus aguerris. Évidemment, avec ses 3 enfants, c'est une autre paire de manches. Quand on est à Disney, je sens que je suis une bonne mère si j'arrive à les coucher à 21h45. Il y a tellement de choses à faire, les activités, la visite des parcs thématiques, les manèges, les défilés, les feux d'artifice. Évidemment, ils sont comme leur mère, ils ne veulent rien manquer. Cette fois, Véro a gardé la surprise du voyage jusqu'à la dernière minute. Le matin du départ, Delphine, Justin et Raphaël se sont réveillés en apprenant qu'ils allaient à Disney World le jour même. Ce n'est qu'une fois dans l'avion, alors que leurs yeux étaient encore ensommeillés, qu'ils ont commencé à comprendre leur chance. Après avoir passé la journée avec un guide adorable, les 3 enfants nous rejoignent au défilé du soir, événement son, danse et lumière, aux allures psychotroniques qui culminent par un grand feu d'artifice devant le château de Cendrillon. Manon ne peut retenir quelques larmes devant la magie et les souvenirs qui lui rappellent son enfance. « Toi aussi, tu devrais écouter ton enfant intérieur », me lance-t-elle pour me narguer alors que je déguste un café Starbucks. Enfin, j'ai trouvé un expresso digne de ce nom. Le lendemain, nous avons le privilège de monter à bord des manèges sans faire la queue. Privilège qui vient avec la contrainte de se lever à 5h du matin pour être là avant l'ouverture du parc. Geneviève et moi embarquons, confiantes, à bord du train d'expédition Everest. Sylvie a tellement hâte qu'elle trépigne d'impatience. Chantal, plus hésitante, est pas du tout fan de montagnes russes, finit par se ratatiner dans le wagonnet. Nous nous sacrifions pour la cause afin de permettre à Francis, le réalisateur, de faire plusieurs prises. Après 4 tours de manège, plus rien ne nous effraie, même si les mains de Geneviève conservent des traces de mes ongles. À la fin de notre périple, nous avons l'occasion de voir une photo de nos binettes. La bouche ouverte, les yeux fermés, les cheveux en bataille, de vraies hystériques. Et devinez qui est toujours jolie sur les clichés, même après tant de turbulences. Véro, qui d'autre? Le fruit de plusieurs années d'expérience à Disney, j'imagine. Pour succomber à la magie de Disney, il suffit d'avoir un cœur d'enfant. Et n'oubliez pas Et n'oubliez pas que si vous y allez, il se pourrait que vous croisiez votre vedette préférée, une cuisse de dinde dans une main, collation très populaire sur les différents sites, et son cellulaire dans l'autre.
T'as déjà été, toi, à Disney? Geneviève?
Jamais.
Jamais? Moi, j'y suis allée avec mon fils et je l'ai laissé faire tous les trucs un peu terrorisants. Par contre, j'adorais me promener dans les petits bateaux où il ne se passait pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est magique à faire avec des enfants.
Tu as vécu alors la magie de Disney avec ton fils comme Véro, le gars avec ses enfants.
Voilà, tout à fait. Eh bien, on vient d'écouter Pierre Fortin, formule magique. Choisir de rester à la maison, c'est dans le coup de pouce d'octobre 2014 et c'est par Claudine Saint-Germain. Ma copine Catherine et moi, nous ressemblons beaucoup. Même domaine professionnel, deux enfants du même âge, même vision de l'éducation et de bien des sujets de société. Pourtant, nos quotidiens sont diamétralement opposés. Quand nos aînés ont eu un an, je suis retournée au boulot et elle a démissionné pour se consacrer à sa famille à plein temps. Quand je lui demande d'où est venue sa décision, elle me dit que c'était décidé bien avant de devenir mère. Je n'aurais pas fait d'enfant avec un gars qui n'aurait pas voulu que je reste à la maison. J'ai vu beaucoup de parents qui travaillaient et qui vivaient une course effrénée chaque jour et je ne voulais pas de ça pour moi et mes petits. Un choix qui n'est pas sans sacrifice. Le conjoint de Catherine ne fait pas un salaire faramineux, alors le budget familial est réduit au strict minimum. Oui, l'argent est un souci, on paye nos comptes, les enfants sont nourris et vêtus. Mais quand je visite des familles où les deux parents travaillent, je vois ce que je manque. Cela dit, on vit en fonction du choix qu'on a fait. Chez nous, le matin, on paraisse, on va jouer près du ruisseau derrière la maison, on observe les salamandres, tranquillement. On a un rythme de vie au ralenti. Je n'envie pas du tout ceux qui courent vers les garderies. La sociologue Annie Cloutier a interviewé plusieurs mères à la maison pour son mémoire de maîtrise qui a servi de base à l'essai « Aimer, materner, jubiler » paru au printemps. Elle, qui a passé 10 ans à la maison avec ses enfants, avait envie de démontrer que cette option méritait autant de valorisation que le modèle de conciliation travail-famille qui prévaut actuellement. La réalité des mères au foyer n'est représentée nulle part, dit-elle. Décider d'être mère au foyer, c'est un peu décider d'être à l'écart de la société présentement. En faisant ce choix, ces dernières constatent qu'elles n'existent plus. C'est difficile. Pourtant, ce qu'Annie Cloutier a surtout senti chez ces femmes, c'est un sentiment de satisfaction et de fierté. Ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas travailler qu'elles restent à la maison, c'est parce que c'est ce qui a le plus de sens à ce moment de leur vie pour elles et leur famille. Est-ce parce qu'elles pensent que les enfants sont mieux à la maison qu'à la garderie ? C'est souvent une considération, en effet. Ce n'est pas ce que je pense moi-même. Moi, je l'ai fait parce que ça me rendait heureuse. C'est exactement ce qui fait que Catherine est en paix avec son choix. Malgré son inquiétude au sujet d'un éventuel retour sur le marché du travail, malgré l'isolement qu'elle sent parfois, et malgré le fait que les tapes dans le dos, elle doit se les donner elle-même. Quand je réussis à faire un pain aux bananes tout en soignant 2 enfants malades, je me trouve vraiment bonne. Mais je n'aurai pas de félicitations comme j'en avais au travail à la fin d'un projet. C'est ce que je trouve le plus dur. Annie Cloutier croit qu'il y aura toujours environ 20% des femmes qui préféreront rester à la maison, peu importe les mesures de conciliation, travail-famille en place. Et si le fait de mieux reconnaître ce choix avait des retombées bénéfiques sur l'ensemble des mères. Si les soins accordés aux enfants étaient aussi valorisés que le fait de rapporter des sous à la maison, est-ce que ça pourrait améliorer les relations hommes-femmes, rendre le marché du travail plus souple sur les exigences de la vie familiale, encourager plus de parents à opter pour la vie qui correspond réellement à leurs valeurs? Pour moi, le principe le plus important, c'est que les mères devraient pouvoir faire ce qu'elles veulent faire. Elles devraient être là où elles sont le mieux, dit Annie Cloutier. Mon amie Catherine et moi, on ne pourrait être plus d'accord. Et alors, quelques autres petits conseils pour les mamans, pas forcément celles qui restent à la maison, mais pour toutes les mamans. Il lance son repas de sa chaise haute. Fiston déguste ses petits pois jusqu'à ce qu'il décide de les jeter un par un par terre. Cela arrive souvent entre l'âge de 1 et 3 ans, période où notre petit s'affirme, explique la nutritionniste Marie Breton. On fait quoi ? On lui dit calmement mais fermement d'arrêter, puis on détourne la tête et on l'ignore. Et s'il persiste, on le fait simplement descendre de sa chaise haute. L'idée n'est pas de le punir, mais de lui apprendre qu'au repas, on doit se comporter de manière appropriée. Les bébés et tout petits ont une capacité d'attention limitée. Si Fiston lance son repas, c'est peut-être signe qu'il arrive à bout de la sienne. Mon enfant ronfle. C'est bien de la chambre de Junior que provient ce ronflement. Faut-il s'inquiéter ? Si c'est passager, s'il a un rhume par exemple, non. S'il ronfle toutes les nuits, la vigilance s'impose. Bien sûr, il peut s'agir d'un ronflement, mais pour 1 à 2% des enfants, c'est un signe d'apnée du sommeil, l'hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes est la cause principale de ce problème qui survient la plupart du temps entre 2 et 4 ans et se caractérise par des pauses respiratoires. Selon le docteur Lee Nguyen, orthorhino-laryngologiste à l'hôpital pour enfants de Montréal. Les voies respiratoires sont obstruées, ce qui provoque l'apnée du sommeil, explique-t-elle. Ponctué de multiples épisodes d'apnée, le sommeil est peu réparateur et peut s'accompagner d'une transpiration anormale et de pipi au lit. Le jour, notre petit ronfleur est fatigué ou somnolent, ou au contraire très agité. Il a parfois moins d'appétit et de la difficulté à se concentrer. En présence d'un ou de plusieurs de ces symptômes, on consulte. Si l'apnée de notre enfant est grave, il pourrait être nécessaire de procéder à l'ablation des amygdales et des végétations adénoïdes pour libérer ses voies respiratoires.
Alors, sujet beauté dans le Journal de Montréal, nu mais pas trop. Depuis quelques saisons déjà, on entend beaucoup parler de la tendance nude. C'est que le look nature a pris le dessus laissant s'exprimer les beiges, crème, taupe et brun, ajoutant cette saison des vieux roses, orangés doux ou caramel, tout en misant sur une lèvre naturelle et un teint santé. Et cette chronique beauté est par Emmanuel Plante dans le Journal de Montréal, précisons-le. Alors, trois trucs pour réussir un maquillage nude selon Francine Mascotte, formatrice de la marque Clinique. Francine Mascotte recommande tout d'abord d'utiliser une base sur la paupière de la marque, All About Shadow Primer, par exemple, que l'on applique avec le doigt. On choisit par la suite une teinte neutre comme celle qui se trouve dans la palette Jenna's Essentials. On l'applique également sous les cils inférieurs et au coin interne de l'œil pour créer un point de lumière. Une touche de mascara brun complète bien le look. Et surtout, ne négligez pas le sourcil qui devrait être naturel. On peut toutefois le mettre en valeur avec un peu de crayon ou de poudre. Conseil numéro 2, la lèvre nude devrait être un juste compromis entre la couleur naturelle de celle-ci et une tonalité bonne mine qui assure une hydratation. Et ajouter un peu de brillance permet d'éviter un look monochrome à la peau. Mélanger un peu d'ombre à votre fond de teint ou votre crème hydratante donne subtilement éclat et luminosité à la peau. Et il y a d'autres trucs pour réussir son maquillage nude, Dominique.
Et oui, moi j'ai trois trucs pour réussir le maquillage, c'est selon Bobby Brown. Pour trouver la teinte parfaite de fond de teint, appliquez un petit échantillon du produit sur le côté du visage et observez-le à la lumière. Si la marque disparaît, c'est que c'est la teinte qu'il vous faut. Pour choisir le blush qui donne un look naturel, sachez qu'il devrait s'agencer avec la couleur de votre joue au moment où vous faites un exercice. Et enfin, pour déterminer la meilleure couleur de rouge à lèvres, choisissez une teinte qui s'apparente le plus possible de la couleur naturelle de vos lèvres. C'est très différent d'une personne à l'autre puisque certaines femmes ont les lèvres plus roses et d'autres plus foncées.
On a parlé de mamans qui se posaient des questions par rapport au sommeil de leurs enfants. L'éducation est très importante pour une bonne estime de soi, comme le maquillage aussi chez les femmes peut permettre de se sentir bien. Dans le Véro magazine d'automne 2014, un vox populi auprès des femmes du Québec intitulé « Je m'aime parce que ». Alors, les lectrices ont partagé avec nous les petites et grandes leçons d'acceptation de soi, un baume sur les sempiternelles insécurités. Sandra Hampton, 41 ans de Gatineau, dit qu'elle s'aime parce qu'elle a appris que la vie est une grande école où on apprend tous les jours. J'espère être une meilleure personne. Je tente donc de faire face aux épreuves avec positivisme et persévérance et de trouver des solutions à chaque problème qui se présente. Et Vicky Dufour, 25 ans de Gatineau, elle s'aime parce qu'elle a donné la vie à un merveilleux petit homme.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Geneviève.
Au
C'était
plaisir,
très
Dominique.
Sympa et
oui.
On se voit la semaine prochaine surtout. Merci à Kamal Salifou pour la mise en onde et ses choix musicaux. Si vous avez des commentaires, vous pouvez aller sur notre site de canalm.org ou nous laisser un message au 1-800-361-0635, poste 220. Et on vous souhaite une très belle semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.